Histoire de Gil Blas de Santillane, livre 7e, chapitre 1er. Des amours de Gil Blas et de la dame Laurença Sephora. J'allai donc à Xelva porter au bon Samuel Simon les 3000 ducats que nous lui avions volés. J'avouerai franchement que je fus tenté sur la route de m'approprier cet argent pour commencer mon intendance sous d'heureux auspices. Je pouvais faire ce coup impunément. Je n'avais qu'à voyager 5 ou 6 jours et m'en retourner ensuite comme si je me fusse acquitté de ma commission. Don Alphonse et son père n'auraient pas soupçonné ma fidélité. Je ne succombai pourtant point à la tentation. Je puis même dire que je la surmontai en garçon d'honneur, ce qui n'était pas peu louable dans un jeune homme qui avait fréquenté de grands fripons. Bien des personnes qui ne voient que d'honnêtes gens ne sont pas si scrupuleuses. Celles surtout à qui l'on a confié des dépôts qu'elles peuvent retenir sans intéresser leur réputation pourraient en dire des nouvelles. Après avoir fait la restitution au marchand, qui ne s'y était nullement attendu, je revins au château de Leyva. Le comte de Pollan n'y était plus. Il avait repris le chemin de Tolède avec Julie et Don Fernand. Je trouvai mon nouveau maître plus épris que jamais de sa Séraphine enchantée de lui, et Don César charmé de les posséder tous deux. Je m'attachai à gagner l'amitié de ce tendre père, et j'y réussis. Je devins l'intendant de la maison. C'était moi qui réglais tout. Je recevais l'argent des fermiers, je faisais la dépense, et j'avais sur les vallées un empire despotique. Mais contre l'ordinaire de mes pareils, je n'abusais point de mon pouvoir. Je ne chassais pas les domestiques qui me déplaisaient, et n'exigeais pas des autres qu'ils me fussent entièrement dévoués. S'ils s'adressaient directement à Don César ou à son fils pour demander des grâces, bien loin de les traverser, je parlais en leur faveur. D'ailleurs, les marques d'affection que mes deux maîtres me donnaient à toute heure m'inspiraient un zèle pur pour leur service. Je n'avais en vue que leur intérêt. Aucun tour de passe-passe dans mon administration. J'étais un intendant comme on n'en voit point. Pendant que je m'applaudissais du bonheur de ma condition, l'amour, comme s'il eût été jaloux de ce que la fortune faisait pour moi, voulut aussi que j'eusse quelque grâce à lui rendre. Il fit naître dans le cœur de la dame Laurença Sephora, première femme de Séraphine, une inclination violente pour monsieur l'intendant. Ma conquête, pour dire les choses en fidèle historien, frisait la 50aine. Cependant, un air de fraîcheur, un visage agréable et 2 beaux yeux dont elle savait habilement se servir pouvaient la faire encore passer pour une espèce de bonne fortune. Je lui aurais souhaité seulement un teint plus vermeil, car elle était fort pâle, ce que je ne manquais pas d'attribuer à l'austérité du célibat. La dame m'agaça longtemps par des regards où son amour était peint, mais au lieu de répondre à ses œillades, je fis d'abord semblant de ne pas m'apercevoir de son dessein. Par là, je lui parus un galant tout neuf, ce qui ne lui déplut point. S'imaginant donc ne devoir pas s'en tenir au langage des yeux avec un jeune homme qu'elle croyait moins éclairé qu'il ne l'était, dès le premier entretien que nous eûmes ensemble, elle me déclara ses sentiments en termes formels, afin que je n'en ignorasse. Elle s'en prit en femme qui avait de l'école. Elle feignit d'être déconcertée en me parlant, et après m'avoir dit à bon compte tout ce qu'elle voulait me dire, elle se cacha le visage pour me faire croire qu'elle avait honte de me laisser voir sa faiblesse. Il fallut bien me rendre. Et quoique la vanité me déterminât plus que le sentiment, je me montrai fort sensible à ces marques d'affection. J'affectai même d'être pressant, et je fis si bien le passionné que je m'attirai des reproches. Laurença me reprit avec tant de douceur qu'en me recommandant d'avoir de la retenue, elle ne paraissait pas fâchée que j'en eusse manqué. J'aurais poussé les choses encore plus loin, si l'objet aimé n'eût pas craint de me donner mauvaise opinion de sa vertu, en m'accordant une victoire trop facile. Ainsi, nous nous séparâmes jusqu'à une nouvelle entrevue. Séphora, persuadée que sa fausse résistance la faisait passer pour une vestale dans mon esprit, et moi, plein de la douce espérance de mettre bientôt cette aventure à fin. Mes affaires étaient dans cette heureuse disposition lorsqu'un laquais de Don César m'apprit une nouvelle qui modéra ma joie. Ce garçon était un de ces domestiques curieux qui s'appliquent à découvrir ce qui se passe dans une maison. Comme il me faisait assidûment sa cour et qu'il me régalait de quelques nouveautés tous les jours, il me vint dire un matin qu'il avait fait une plaisante découverte, qu'il voulait m'en faire part, à condition que je garderais le secret, attendu que cela regardait la dame Laurença Séphora, dont il craignait, disait-il, de s'attirer le ressentiment. J'avais trop envie d'apprendre ce qu'il avait à me dire pour ne lui pas promettre d'être discret. Mais, sans paraître y prendre le moindre intérêt, je lui demandai, le plus adroitement possible, ce que c'était que la découverte dont il me faisait faite. « Laurença, me dit-il, fait secrètement entrer tous les soirs dans son appartement le chirurgien du village, qui est un jeune homme des mieux bâtis, et le drôle y demeure assez longtemps. « Je veux croire, ajouta-t-il d'un air malin, que cela peut fort bien être innocent, mais vous conviendrez qu'un garçon qui se glisse mystérieusement dans la chambre d'une fille dispose à mal juger d'elle. » Quoique ce rapport me fît autant de peine que si j'eusse été véritablement amoureux, je me gardai bien de le faire connaître. Je me contraignis jusqu'à rire de cette nouvelle qui me perçait l'âme. Mais je me dédommageai de cette contrainte dès que je me vis sans témoin. Je pestais, je jurais, je rêvais au parti que je prendrais. Tantôt, méprisant Laurença, je me proposais de l'abandonner, sans daigner seulement m'éclaircir avec la coquette. Et tantôt, m'imaginant qu'il y allait de mon honneur de donner la chasse au chirurgien, je formai le dessein de l'appeler en duel. Cette dernière résolution prévalut. Je me mis en embuscade sur le soir, et je vis effectivement mon homme entrer d'un air mystérieux dans l'appartement de ma duègne. Il fallait cela pour entretenir ma fureur, qui se serait peut-être ralentie. Je sortis du château et m'allai poster sur le chemin par où le galant devait s'en retourner. Je l'attendais de pied ferme, et chaque moment irritait l'envie que j'avais de me battre. Enfin, mon ennemi parut. Je fis quelques pas en matamore pour l'aller joindre, mais je ne sais comment diable cela se fit, je me sentis tout à coup saisir, comme un héros d'Homère, d'un mouvement de crainte qui m'arrêta. Je demeurai aussi troublé que Paris quand il se présenta pour combattre Ménélas. Je me mis à considérer mon homme, qui me sembla fort et vigoureux, et je trouvai son épée d'une longueur excessive. Tout cela faisait sur moi son effet. Néanmoins, par point d'honneur ou autrement, quoique je visse le péril avec des yeux qui le grossissaient encore, et malgré la nature qui s'opiniâtrait à m'en détourner, j'eus l'assurance de m'avancer vers le chirurgien et de mettre flamberge au vent. Mon action le surprit. « Qu'y a-t-il donc, seigneur Gilbas ? » s'écria-t-il. « Pourquoi ces démonstrations de chevalier errant ? Vous voulez rire apparemment ?»« Non, monsieur le barbier, lui répondis-je. Non, rien n'est plus sérieux. Je veux savoir si vous êtes aussi brave que galant. N'espérez pas que je vous laisse posséder tranquillement les bonnes grâces de la dame que vous venez de voir en secret au château. » « Par saint Côme, reprit le chirurgien en faisant un éclat de rire, « voilà une plaisante aventure. Vive Dieu, les apparences sont bien trompeuses. » À ces mots, m'imaginant qu'il n'avait pas plus d'envie que moi de se battre, j'en devins plus insolent. « À d'autres, interrompis-je. « Mon ami, à d'autres, ne pensez pas que je me paye d'une simple négative. » « Je vois bien, répliqua-t-il, que je serais obligé de parler pour prévenir le malheur qui arriverait à vous ou à moi. Je vais donc vous révéler un secret, quoique les hommes de notre profession ne puissent pas être trop discrets. Si la dame Laurença me fait entrer à la sourdine dans son appartement, c'est pour cacher aux domestiques la connaissance de son mal. Elle a au dos un cancer invétéré que je vais panser tous les soirs. Voilà le sujet de ces visites qui vous alarment. Ayez donc désormais l'esprit en repos là-dessus. Mais, poursuivit-il, si vous n'êtes pas satisfait de cet éclaircissement et que vous vouliez que nous en venions absolument aux mains, vous n'avez qu'à parler. Je ne suis pas homme à refuser de coller. » En disant ces paroles, il tira sa longue rapière qui me fit frémir et se mit en garde d'un air qui ne me promettait rien de bon. « C'est assez, lui dis-je en rengainant mon épée. Je ne suis pas un brutal à n'écouter aucune raison. Après ce que vous venez de m'apprendre, vous n'êtes plus mon ennemi. Embrassons-nous. » À ce discours, qui lui fit assez connaître que je n'étais pas si méchant que j'avais paru d'abord, il remit en riant sa flamberge, me tendit les bras, et ensuite nous nous séparâmes, les meilleurs amis du monde. Depuis ce moment-là, Séphora ne s'offrit plus que désagréablement à ma pensée. J'éludai toutes les occasions qu'elle me donna de l'entretenir en particulier, ce que je fis avec tant de soin et d'affectation qu'elle s'en aperçut. Étonnée d'un si grand changement, elle en voulut savoir la cause. Et, trouvant enfin le moyen de me parler à l'écart, « Monsieur l'intendant, me dit-elle, apprenez-moi de grâce pourquoi vous fuyez jusqu'à mes regards. Au lieu de chercher comme auparavant l'occasion de m'entretenir, vous prenez soin de m'éviter. Il est vrai que j'ai fait les avances, mais vous y avez répondu. Rappelez-vous, s'il vous plaît, la conversation particulière que nous avons eue ensemble. Vous y étiez tout de feu. Vous êtes à présent tout de glace. Qu'est-ce que cela signifie ? » La question n'était pas peu délicate pour un homme naturel. Aussi je fus fort embarrassée. Je ne me souviens plus de la réponse que je fis à la dame. Je me souviens seulement qu'elle lui déplut infiniment. Séphora, quoiqu'à son air doux et modeste on l'eût prise pour un agneau, était un tigre quand la colère la dominait. « Je croyais, me dit-elle en me lançant un regard plein de dépit et de rage, je croyais faire beaucoup d'honneur à un petit homme comme vous, en lui découvrant des sentiments que de nobles cavaliers feraient gloire d'exciter. Je suis bien punie de m'être indignement abaissée jusqu'à un malheureux aventurier. » Elle n'en demeura pas là. J'en aurais été quitte à trop bon marché. Sa langue, cédant à la fureur, me donna 100 épithètes qui enchérissaient les unes sur les autres. Je sais bien que j'aurais dû les recevoir de sang-froid et faire réflexion qu'en dédaignant le triomphe d'une vertu que j'avais tentée, je commettais un crime que les femmes ne pardonnent point. Mais j'étais trop vif pour souffrir des injures dont un homme sensé n'aurait fait que rire à ma place, et la patience m'échappa. « Madame, lui dis-je, ne méprisons personne. Si ces nobles cavaliers dont vous parlez vous avez vu le dos, je suis sûre qu'ils borneraient là leur curiosité. » Je n'eus pas sitôt lancé ce trait que la furieuse duègne m'appliqua le plus rude soufflet qu'ait jamais donné femme outragée. Je n'en attendis pas un second, et j'évitai par une prompte fuite une grêle de coups qui serait tombée sur moi. Je rendais grâce au ciel de me voir hors de ce mauvais pas, et je m'imaginais n'avoir plus rien à craindre, puisque la dame s'était vengée. Il me semblait que pour son honneur, elle devait taire l'aventure. Effectivement, 15 jours s'écoulèrent sans que j'en entendisse parler. Je commençais moi-même à l'oublier, quand j'appris que Séphora était malade. Je fus assez bon pour m'affliger de cette nouvelle. J'eus pitié de la dame. Je pensais que, ne pouvant vaincre un amour si mal payé, cette malheureuse amante y avait succombé. Je me représentais avec douleur que j'étais la cause de sa maladie, et je plaignais du moins la duègne, si je ne pouvais l'aimer. Que je jugeais mal d'elle. Sa tendresse, changée en haine, ne songeait alors qu'à me nuire. Un matin, que j'étais avec Don Alphonse, je trouvai ce jeune cavalier triste et rêveur. Je lui demandai respectueusement ce qu'il avait. « Je suis chagrin, me dit-il, de voir Séraphine faible, injuste, ingrate. « Cela vous étonne ? » ajouta-t-il en remarquant que je l'écoutais avec surprise. Cependant, rien n'est plus véritable. J'ignore quel sujet vous avez pu donner à la dame Laurença de vous haïr, mais je puis vous assurer que vous lui êtes devenu odieux à un point que, si vous ne sortez au plus vite du château, sa mort, dit-elle, est certaine. Vous ne devez pas douter que Séraphine, à qui vous êtes chère, ne se soit d'abord révoltée contre une haine qu'elle ne peut servir sans injustice et sans ingratitude. Mais enfin, c'est une femme. Elle aime tendrement Séphora qui l'a élevée. C'est pour elle une mère que cette gouvernante dont elle croirait avoir le trépas à se reprocher, si elle n'avait la faiblesse de la satisfaire. Pour moi, quelque amour qui m'attache à Séraphine, je n'aurai jamais la tâche complaisante d'adhérer à ses sentiments là-dessus. Périssent toutes les duègnes d'Espagne avant que je consente à l'éloignement d'un garçon que je regarde plutôt comme un frère que comme un domestique. Lorsque Don Alphonse eut ainsi parlé, je lui dis « Seigneur, je suis né pour être le jouet de la fortune. J'avais compté qu'elle cesserait de me persécuter chez vous, où tout me promettait des jours heureux et tranquilles. Il faut pourtant me résoudre à m'en bannir. Quelque agrément que j'y trouve !»« Non, non !» s'écria le généreux fils de Don César. « Laissez-moi faire entendre raison à Séraphine. Il ne sera pas dit que vous aurez été sacrifié aux caprices d'une duègne, pour qui d'ailleurs on n'a que trop de considération. » « Vous ne ferez, lui répliquai-je, Seigneur, qu'aigrir Séraphine en résistant à ses volontés. J'aime mieux me retirer que de m'exposer par un plus long séjour ici à mettre la division entre deux époux si parfaits. Ce serait un malheur dont je ne me consolerais de ma vie. » Don Alphonse me défendit de prendre ce parti, et je le vis si ferme dans le dessein de me soutenir qu'indubitablement Laurença en aurait eu le démenti si j'eusse voulu tenir bon. Ce que j'aurais fait si je n'eusse écouté que mon ressentiment. Il y avait des moments où, piqué contre la duègne, j'étais tenté de ne la point ménager. Mais quand je venais à considérer qu'en révélant sa honte, ce serait poignarder une pauvre créature dont je causais tout le malheur, et que deux mots sans remède conduisaient visiblement au tombeau, je ne me sentais plus que de la compassion pour elle. Je jugeais, puisque j'étais un mortel si dangereux, que je devais en conscience rétablir par ma retraite la tranquillité dans le château. Ce que j'exécutais dès le lendemain avant le jour, sans dire adieu à mes deux maîtres, de peur qu'ils ne s'opposassent à mon départ par amitié pour moi. Je me contentais de laisser dans ma chambre un écrit qui contenait un compte exact que je leur rendais de mon administration. Chapitre 2. Ce que devint Gil Blas après sa sortie du château de Leyva et des heureuses suites qu'eut le mauvais succès de ses amours. J'étais monté sur un bon cheval qui m'appartenait, et je portais dans ma valise 200 pistoles, dont la meilleure partie me venait des bandits tués et des 3000 ducats volés à Samuel Simon. Car Don Alphonse, sans me faire rendre ce que j'avais touché, avait restitué cette somme entière de ses propres deniers. Ainsi, regardant mes effets comme un bien devenu légitime par cette restitution, j'en jouissais sans scrupule. Je possédais donc un fonds qui ne me permettait pas de m'embarrasser de l'avenir, outre la confiance qu'on a toujours en son mérite à l'âge que j'avais. D'ailleurs, Tolède m'offrait un asile agréable. Je ne doutais point que le comte de Pollan ne se fît un plaisir de bien recevoir un de ses libérateurs et de lui donner un logement dans sa maison. Mais j'envisageais ce seigneur comme mon pis-aller, et je résolus, avant que d'avoir recours à lui, de dépenser une partie de mon argent à voyager dans les royaumes de Murcie et de Grenade, que j'avais particulièrement envie de voir. Dans ce dessein, je pris le chemin d'Almansa, d'où, poursuivant ma route, j'allais de ville en ville, jusqu'à celle de Grenade, sans qu'il m'arrivât aucune mauvaise aventure. Il semblait que la fortune, satisfaite de tant de tours qu'elle m'avait joués, voulut enfin me laisser en repos. Mais la traîtresse m'en préparait bien d'autres, comme on le verra dans la suite. Une des premières personnes que je rencontrai dans les rues de Grenade fut le seigneur Don Fernand de Leyva, gendre, ainsi que Don Alphonse, du comte de Pollan. Nous fûmes également surpris l'un et l'autre de nous trouver là. « Comment donc, Gil Blas ? » s'écria-t-il. « Vous, dans cette ville ? Qui vous amène ici ?»«
Seigneur, lui dis-je, si vous êtes étonné de me voir en ce pays-ci, vous le serez bien davantage quand vous saurez pourquoi. J'ai quitté le service du seigneur Don César et de son fils. »
Alors je lui contai tout ce qui s'était passé entre Séphora et moi, sans lui rien déguiser. Il en rit de bon cœur. Puis, reprenant son sérieux, « Mon ami, me dit-il, je vous offre ma médiation dans cette affaire. Je vais écrire à ma belle-sœur. »
« Non, non, seigneur, interrompis-je, ne lui écrivez point, je vous prie. Je ne suis pas sorti du château de Leyva pour y retourner. Faites, s'il vous plaît, un autre usage de la bonté que vous avez pour moi. Si quelqu'un de vos amis a besoin d'un secrétaire ou d'un intendant, je vous conjure de lui parler en ma faveur. J'ose vous assurer qu'il ne vous reprochera pas de lui avoir donné un mauvais sujet.
« Très volontiers, répondit-il. Je ferai ce que vous souhaitez. Je suis venu à Grenade pour voir une vieille tante malade. J'y serai encore 3 semaines, après quoi je partirai pour me rendre à mon château de Lorki, où j'ai laissé Julie. Je demeure dans cette maison, poursuivit-il, en me montrant un hôtel qui était à 100 pas de nous. Venez me trouver dans quelques jours. Je vous aurai peut-être déjà déterré un poste convenable.
Effectivement. Dès la première fois que nous nous revîmes, il me dit « Monsieur l'archevêque de Grenade, mon parent et mon ami, voudrait avoir près de lui un homme qui eût de la littérature et une bonne main pour mettre au net ses écrits, car c'est un grand auteur. Il a composé je ne sais combien d'homélies, et il en fait encore tous les jours qu'il prononce avec applaudissement. Comme je vous crois son fait, je vous ai proposé, et il m'a promis de vous prendre. » Allez vous présenter à lui de ma part. Vous jugerez, par la réception qu'il vous fera, si je lui ai parlé de vous avantageusement. » La condition me parut telle que je la pouvais désirer. Ainsi, m'étant préparé de mon mieux à paraître devant le prélat, je me rendis un matin à l'archevêché. Si j'imitais les faiseurs de romans, je ferais une pompeuse description du palais épiscopal de Grenade. Je m'étendrai sur la structure du bâtiment, je vanterai la richesse des meubles, je parlerai des statues et des tableaux qui y étaient, je ne ferai pas grâce au lecteur de la moindre des histoires qu'il représentait. Mais je me contenterai de dire qu'il égalait en magnificence le palais de nos rois. Je trouvai dans les appartements un peuple d'ecclésiastiques et de gens d'épée, dont la plupart étaient des officiers de Monseigneur, ses aumôniers, ses gentilshommes, ses écuyers ou ses valets de chambre. Les laïcs avaient tous des habits superbes. On les aurait plutôt pris pour des seigneurs que pour des domestiques. Ils étaient fiers et faisaient des hommes de conséquence. Je ne pus m'empêcher de rire en les considérant et de m'en moquer en moi-même. « Parbleu, disais-je, ces gens-ci sont bien heureux de porter le joug de la servitude sans le sentir. » Car enfin, s'ils le sentaient, il me semble qu'ils auraient des manières moins orgueilleuses. Je m'adressai à un grave et gros personnage qui se tenait à la porte du cabinet de l'archevêque pour l'ouvrir et la fermer quand il le fallait. Je lui demandai civilement s'il n'y avait pas moyen de parler à Monseigneur. « Attendez, me dit-il d'un air sec, sa grandeur va sortir pour aller entendre la messe. Elle vous donnera en passant un moment d'audience. » Je ne répondis pas un mot. Je m'armai de patience et je m'avisai de vouloir lier conversation avec quelques-uns des officiers. Mais ils commencèrent à m'examiner depuis les pieds jusqu'à la tête, sans daigner me répondre une syllabe. Après quoi ils se regardèrent les uns les autres en souriant avec orgueil de la liberté que j'avais prise de me mêler à leur entretien. Je demeurai, je l'avoue, tout déconcerté de me voir traiter ainsi par des valets. Je n'étais pas encore bien remis de ma confusion quand la porte du salon s'ouvrit. L'archevêque parut. Il se fit aussitôt un profond silence parmi ses officiers, qui quittèrent tout à coup leur maintien insolent pour en prendre un respectueux devant leur maître. Ce prélat était dans sa 69e année, fait à peu près comme mon oncle, le chanoine Gilles Pérez, c'est-à-dire gros et court. Il avait par-dessus le marché les jambes fort tournées en dedans, et il était si chauve qu'il ne lui restait qu'un toupet de cheveux par derrière, ce qui l'obligeait d'emboîter sa tête dans un bonnet de laine fine à longues oreilles. Malgré tout cela, je lui trouvais l'air d'un homme de qualité, sans doute parce que je savais qu'il en était un. Nous autres personnes du commun, nous regardons les grands seigneurs avec une prévention qui leur prête souvent un air de grandeur que la nature leur a refusé. L'archevêque s'avança vers moi d'abord et me demanda d'un ton de voix plein de douceur ce que je souhaitais. Je lui dis que j'étais le jeune homme dont le seigneur Don Fernand de Leyva lui avait parlé. Il ne me donna pas le temps de lui en dire davantage. « Ah, c'est vous ! » s'écria-t-il. « C'est vous dont il m'a fait un si bel éloge ! Je vous retiens à mon service. Vous êtes une bonne acquisition pour moi. Vous n'avez qu'à demeurer ici. » À ces mots, il s'appuya sur deux écuyers et sortit après avoir écouté des ecclésiastiques qui avaient quelque chose à lui communiquer. À peine fut-il hors de la chambre où nous étions, que les mêmes officiers qui avaient dédaigné ma conversation vinrent la rechercher. Les voilà qui m'environnent, qui me gracieusent et me témoignent de la joie de me voir devenir commensal de l'archevêché. Ils avaient entendu les paroles que leur maître m'avait dites, et ils mouraient d'envie de savoir sur quel pied j'allais être auprès de lui. Mais j'eus la malice de ne pas contenter leur curiosité pour me venger de leur mépris. Monseigneur ne tarda guère à revenir. Il me fit entrer dans son cabinet pour m'entretenir en particulier. Je jugeai bien qu'il avait dessein de tâter mon esprit. Je me tins sur mes gardes et me préparai à mesurer tous mes mots. Il m'interrogea d'abord sur les humanités. Je ne répondis pas mal à ses questions. Il vit que je connaissais assez les auteurs grecs et latins. Il me mit ensuite sur la dialectique. C'est où je l'attendais. Il me trouva là-dessus ferré à glace. « Votre éducation, me dit-il avec quelque sorte de surprise, n'a point été négligée. Voyons présentement votre écriture. » J'en tirai de ma poche une feuille que j'avais apportée exprès. Mon prélat n'en fut pas mal satisfait. « Je suis content de votre main, s'écria-t-il, et plus encore de votre esprit. » Je remercierai mon neveu Don Fernand de m'avoir donné un si joli garçon. C'est un vrai présent qu'il m'a fait. Nous fûmes interrompus par l'arrivée de quelques seigneurs grenadins qui venaient dîner avec l'archevêque. Je les laissai ensemble et me retirai parmi les officiers qui me prodiguèrent alors les honnêtetés. J'allai manger avec eux quand il en fut temps, et s'ils m'observèrent pendant le repas, je les examinai bien aussi. Quelle sagesse il y avait dans l'extérieur des ecclésiastiques! Ils me parurent de saints personnages, tant le lieu où j'étais tenait mon esprit en respect. Il ne me vint pas seulement en pensée que c'était de la fausse monnaie, comme si l'on n'en pouvait pas voir chez les princes de l'Église. J'étais assis auprès d'un vieux valet de chambre nommé Melchior de la Ronda. Il prenait soin de me servir de bons morceaux. L'attention qu'il avait pour moi m'en donna pour lui, et ma politesse le charma. « Seigneur cavalier, me dit-il tout bas après le dîner, je voudrais bien avoir une conversation particulière avec vous. » En même temps, il me mena dans un endroit du palais où personne ne pouvait nous entendre, et là, il me tint ce discours. « Mon fils, dès le premier instant que je vous ai vu, je me suis senti pour vous de l'inclination. » Je veux vous en donner une marque certaine en vous faisant une confidence qui vous sera d'une grande utilité. Vous êtes ici dans une maison où les vrais et les faux dévots vivent pêle-mêle. Il vous faudrait un temps infini pour connaître le terrain. Je vais vous épargner une si longue et si désagréable étude en vous découvrant les caractères des uns et des autres. Après cela, vous pourrez facilement vous conduire. Je commencerai, poursuivit-il, par Monseigneur. C'est un prélat fort pieux qui s'occupe sans cesse à édifier le peuple, à le porter à la vertu par des sermons pleins d'une morale excellente qu'il compose lui-même. Il a depuis 20 années quitté la cour pour s'abandonner entièrement au zèle qu'il a pour son troupeau. C'est un savant personnage, un grand orateur. Il met tout son plaisir à prêcher, et ses auditeurs sont ravis de l'entendre. Peut-être y a-t-il un peu de vanité dans son fait, mais outre que ce n'est point aux hommes à pénétrer les cœurs, il me sierait mal d'éplucher les défauts d'une personne dont je mange le pain. S'il m'était permis de reprendre quelque chose dans mon maître, je blâmerais sa sévérité. Au lieu d'avoir de l'indulgence pour les faibles ecclésiastiques, il les punit avec trop de rigueur. Il persécute surtout sans miséricorde ceux qui, comptant sur leur innocence, entreprennent de se justifier juridiquement au mépris de son autorité. Je lui trouve encore un autre défaut qui lui est commun avec bien des personnes de qualité. Quoi qu'il aime ses domestiques, il ne fait aucune attention à leur service, et il les laissera vieillir dans sa maison sans songer à leur procurer quelque établissement. Si quelquefois il leur fait des gratifications, ils ne les doivent qu'à la bonté de quelqu'un qui aura parlé pour eux. Il ne s'aviserait jamais de lui-même de leur faire le moindre bien. Voilà ce que le vieux valet de chambre me dit de son maître. Il me dit après cela ce qu'il pensait des ecclésiastiques avec qui nous avions dîné. Il m'en fit des portraits qui ne s'accordaient guère avec leur maintien. Il ne me les donna pas à la vérité pour de malhonnêtes gens, mais seulement pour d'assez mauvais prêtres. Il en accepta pourtant quelques-uns, dont il me vanta fort la vertu. Je ne fus plus embarrassé de ma contenance avec ces messieurs. Dès le soir même, en soupant, je me parais comme eux d'un dehors sage. Cela ne coûte rien. Il ne faut pas s'étonner s'il y a tant d'hypocrites. Chapitre 3. Gil Blas devient le favori de l'archevêque de Grenade et le canal de ses grâces. J'avais été, dans l'après-dîner, chercher mes hardes et mon cheval à l'hôtellerie où j'étais logé. Après quoi j'étais revenu souper à l'archevêché, où l'on m'avait préparé une chambre fort propre et un lit de duvet. Le jour suivant, Monseigneur me fit appeler de bon matin. C'était pour me donner une homélie à transcrire, mais il me recommanda de la copier avec toute l'exactitude possible. Je n'y manquais pas. Je n'oubliais ni accent, ni point, ni virgule. Aussi la joie qu'il en témoigna fut mêlée de surprise. « Père éternel ! » s'écria-t-il avec transport lorsqu'il eut parcouru des yeux tous les feuillets de ma copie. « Vit-on jamais rien de plus correct ? Vous êtes trop bon copiste pour n'être pas grammairien. Parlez-moi confidemment, mon ami. N'avez-vous rien trouvé en écrivant qui vous ait choqué ? Quelque négligence dans le style ou quelque terme impropre ? Cela peut fort bien m'être échappé dans le feu de la composition. « Oh, monseigneur !» lui répondis-je d'un air modeste. « Je ne suis point assez éclairé pour faire des observations critiques, et quand je le serai, je suis persuadé que les ouvrages de votre grandeur braveraient ma censure. » Le prélat sourit de ma réponse. Il ne répliqua point, mais il me laissa voir, au travers de toute sa piété, qu'il n'était pas auteur impunément. J'achevai de gagner ses bonnes grâces par cette flatterie. Je lui devins plus cher de jour en jour, et j'appris enfin de Don Fernand, qui le venait voir souvent, que j'en étais aimé de manière que je pouvais compter ma fortune faite. Cela me fut confirmé peu de temps après par mon maître même, et voici à quelle occasion. Un soir, il répéta devant moi avec enthousiasme, dans son cabinet, une homélie qu'il devait prononcer le lendemain dans la cathédrale. Il ne se contenta pas de me demander ce que j'en pensais en général. Il m'obligea de lui dire les endroits qui m'avaient le plus frappé. J'eus le bonheur de lui citer ceux qu'il estimait davantage, ses morceaux favoris. Par là, je passais dans son esprit pour un homme qui avait une connaissance délicate des vraies beautés d'un ouvrage. « Voilà ! s'écria-t-il, « ce qu'on appelle avoir du goût et de sentiment. Va, mon ami, tu n'as pas, je t'assure, l'oreille béotienne. » En un mot, il fut si content de moi qu'il me dit avec vivacité, « Sois, Gil Blas, sois désormais sans inquiétude sur ton sort. Je me charge de t'en faire un des plus agréables. Je t'aime, et pour te le prouver, je te fais mon confident. » Je n'eus pas sitôt entendu ces paroles que je tombai aux pieds de sa grandeur, tout pénétré de reconnaissance. J'embrassai de bon cœur ses jambes cagneuses et je me regardai comme un homme qui est en train de s'enrichir. « Oui, mon enfant, reprit l'archevêque, dont mon action avait interrompu le discours, je veux te rendre dépositaire de mes plus secrètes pensées. Écoute avec attention ce que je vais te dire. Je me plais à prêcher. Le Seigneur bénit mes homélies. Elles touchent les pécheurs, les font rentrer en eux-mêmes et recourir à la pénitence. J'ai la satisfaction de voir un avare, effrayé des images que je présente à sa cupidité, ouvrir ses trésors et les répandre d'une prodigue main, d'arracher un voluptueux au plaisir, de remplir d'ambitieux les ermitages et d'affermir dans son devoir une épouse ébranlée par un amant séducteur. Ces conversions, qui sont fréquentes, devraient toutes seules m'exciter au travail. Néanmoins, je t'avouerai ma faiblesse. Je me propose encore un autre prix, un prix que la délicatesse de ma vertu me reproche inutilement. C'est l'estime que le monde a pour les écrits fins et limés. L'honneur de passer pour un parfait orateur a des charmes pour moi. On trouve mes ouvrages également forts et délicats, mais je voudrais bien éviter le défaut des bons auteurs qui écrivent trop longtemps et me sauver avec toute ma réputation. Ainsi, mon cher Gil Blas, continua le prélat, j'exige une chose de ton zèle. Quand tu t'apercevras que ma plume sentira la vieillesse, lorsque tu me verras baisser, ne manque pas de m'en avertir. Je ne me fie point à moi là-dessus. Mon amour-propre pourrait me séduire. Cette remarque demande un esprit désintéressé. Je fais choix du tien que je connais bon. Je m'en rapporterai à ton jugement. Grâce au ciel, lui dis-je, Monseigneur, vous êtes encore fort éloigné de ce temps-là. De plus, un esprit de la trempe de celui de votre grandeur se conservera beaucoup mieux qu'un autre. Ou, pour parler plus juste, vous serez toujours le même. Je vous regarde comme un autre cardinal Ximénez, dont le génie supérieur, au lieu de s'affaiblir par les années, semblait en recevoir de nouvelles forces. « Point de flatterie !» interrompit-il. « Mon ami, je sais que je puis tomber tout d'un coup. À mon âge, on commence à sentir les infirmités, et les infirmités du corps altèrent l'esprit. Je te le répète, Gil Blas, dès que tu jugeras que ma tête s'affaiblira, donne-moi aussitôt avis. Ne crains pas d'être franc et sincère. Je recevrai cet avertissement comme une marque d'affection pour moi. D'ailleurs, il y va de ton intérêt. Si par malheur pour toi il me revenait qu'on dit dans la ville que mes discours n'ont plus leur force ordinaire et que je devrais me reposer, je te le déclare tout net, tu perdrais, avec mon amitié, la fortune que je t'ai promise. Tel serait le fruit de ta sotte discrétion. » Le patron cessa de parler en cet endroit pour attendre ma réponse, qui fut une promesse de faire ce qu'il souhaitait. Depuis ce temps-là, il n'eut plus rien de caché pour moi. Je devins son favori. Tous les domestiques, excepté Melchior de la Ronda, ne s'en aperçurent pas sans envie. C'était une chose à voir que la manière dont les gentilshommes et les écuyers vivaient alors avec le confident de Monseigneur. Ils n'avaient pas honte de faire des bassesses pour captiver ma bienveillance. Je ne pouvais croire qu'ils fussent espagnols. Je ne laissais pas de leur rendre service sans être la dupe de leur politesse intéressée. Monsieur l'archevêque, à ma prière, s'employa pour eux. Il fit donner à l'un une compagnie et le mit en état de faire figure dans les troupes. Il en envoya un autre au Mexique remplir un emploi considérable qu'il lui fit avoir. Et j'obtins pour mon ami Melchior une bonne gratification. J'éprouvai par là que si le prélat ne prévenait pas, du moins il refusait rarement ce qu'on lui demandait. Mais ce que je fis pour un prêtre me paraît mériter un détail. Un jour, certain licencié appelé Luis Garcias, homme jeune encore et de très bonne mine, me fut présenté par notre maître d'hôtel qui me dit « Seigneur Gil Blas, vous voyez un des meilleurs amis dans cette honnête... » Un de mes... « Seigneur Gil Blas, vous voyez un de mes meilleurs amis dans cette honnête ecclésiastique. Il a été aumônier chez des religieuses. La médisance n'a point épargné sa vertu. On l'a noirci dans l'esprit de Monseigneur qui l'a interdit, et qui, par malheur, est si prévenu contre lui qu'il ne veut écouter aucune sollicitation en sa faveur. Nous avons inutilement employé les premières personnes de Grenade pour le faire réhabiliter. Notre maître est inflexible. « Messieurs, leur dis-je, voilà une affaire bien gâtée. Il vaudrait mieux qu'on n'eût point sollicité pour le seigneur licencié. On lui a rendu un mauvais office en voulant le servir. Je connais mon seigneur. Les prières et les recommandations ne font qu'aggraver dans son esprit la faute d'un ecclésiastique. Il n'y a pas longtemps que je le lui ai ouï dire à lui-même. « Plus, disait-il, un prêtre qui est tombé dans l'irrégularité engage de personnes à me parler pour lui, plus il augmente le scandale et plus j'ai de sévérité. » « Cela est fâcheux, reprit le maître d'hôtel, et mon ami serait bien embarrassé s'il n'avait pas une bonne main. Heureusement, il écrit à ravir, et il se tire d'intrigue par ce talent. » Je fus curieux de voir si l'écriture qu'on me vantait valait mieux que la mienne. Le licencié, qui en avait sur lui, m'en montra une page que j'admirais. Il semblait que ce fût un exemple de maître écrivain. En considérant une si belle écriture, il me vint une idée. Je priai Garcia de me laisser ce papier, en lui disant que j'en pourrais faire quelque chose qui lui serait utile. Que je ne m'expliquais pas dans ce moment, mais que le lendemain je lui en dirais davantage. Le licencié, à qui le maître d'hôtel avait apparemment fait l'éloge de mon esprit, se retira aussi content que s'il eût déjà été remis dans ses fonctions. J'avais véritablement envie qu'il le fût, et dès le jour même, j'y travaillais de la manière que je vais le dire. J'étais seul avec l'archevêque, je lui fis voir l'écriture de Garcia. Mon patron en parut charmé. Alors, profitant de l'occasion, « Monseigneur, lui dis-je, puisque vous ne voulez pas faire imprimer vos homilies, je souhaiterais du moins qu'elles fussent écrites comme cela. »« Je suis satisfait de ton écriture, » me répondit le prélat. « Mais je t'avoue que je ne serais pas fâché d'avoir de cette main-là une copie de mes ouvrages. »« Votre grandeur, lui répliquai-je, n'a qu'à parler. L'homme qui peint si bien est un licencié de ma connaissance. Il sera d'autant plus ravi de vous faire ce plaisir qu'il pourra par ce moyen intéresser votre Clémence à le tirer de la triste situation où il a le malheur de se trouver présentement. » Le prélat ne manqua pas de demander comment se nommait ce licencié. « Il s'appelle, lui dis-je, Luis Garcia. Il est au désespoir de s'être attiré votre disgrâce. » « Ce Garcia, interrompit-il, a, si je ne me trompe, été aumônier dans un couvent de filles. Il a encouru les censures ecclésiastiques. Je me souviens encore des mémoires qui m'ont été données contre lui. Ses mœurs ne sont pas fort bonnes. » « Monseigneur, interrompis-je à mon tour, je n'entreprendrai point de le justifier, mais je sais qu'il a des ennemis. Il prétend que les auteurs des mémoires que vous avez vues se sont plus attachés à lui rendre de mauvais offices qu'à dire la vérité. « Cela peut être, reprit l'archevêque, il y a dans le monde des esprits bien dangereux. D'ailleurs, je veux que sa conduite n'ait pas toujours été irréprochable. Il peut s'en être repenti. Enfin, à tout péché miséricorde, amène-moi ce licencié, je lève l'interdiction. » C'est ainsi que les hommes les plus sévères rabattent de leur sévérité, quand leur plus cher intérêt s'y oppose. L'archevêque accorda sans peine au vain plaisir d'avoir ses œuvres bien écrites, ce qu'il avait refusé aux plus puissantes sollicitations. Je portai promptement cette nouvelle au maître d'hôtel, qui la fit savoir à son ami Garcia. ce licencié, dès le jour suivant, vint me faire des remerciements proportionnés à la grâce obtenue. Je le présentai à mon maître, qui se contenta de lui faire une légère réprimande et lui donna des homélies à mettre honnête. Garcia s'en acquitta si bien qu'il fut rétabli dans son ministère. Il obtint même la cure de Gaby, gros bourg aux environs de Grenade. Ce qui prouve bien que les bénéfices ne se donnent pas toujours à la vertu. Chapitre 4. L'archevêque tombe en apoplexie, de l'embarras où se trouve Gil Blas et de quelle façon il s'en sort. Tant que je rendais ainsi service aux uns et aux autres, Don Fernand de Leyva se disposait à quitter Grenade. J'allais voir ce seigneur avant son départ pour le remercier de nouveau de l'excellent poste qu'il m'avait procuré. Je lui en parus si satisfait qu'il me dit « Mon cher Gil Blas, je suis ravi que vous soyez content de mon oncle l'archevêque. » « Je suis charmé de ce grand prélat, lui répondis-je, et je dois l'être. Outre que c'est un seigneur fort aimable, il a pour moi des bontés que je ne puis assez reconnaître. » Il ne m'en fallait pas moins pour me consoler de n'être plus auprès du seigneur Don César et de son fils. « Je suis persuadé, reprit-il, qu'ils sont aussi tous deux mortifiés de vous avoir perdu. Mais vous n'êtes peut-être pas séparés pour jamais. La fortune pourra quelque jour vous rassembler. » Je n'entendis pas ces paroles sans m'attendrir. J'en soupirai, et je sentis dans ce moment-là que j'aimais tant Don Alphonse que j'aurais volontiers abandonné l'archevêque et les belles espérances qu'il m'avait données pour m'en retourner au château de Leyva, si l'on eût levé l'obstacle qui m'en avait éloigné. Don Fernand s'aperçut des mouvements qui m'agitaient et m'en sut si bon gré qu'il m'embrassa en me disant que toute sa famille prendrait toujours part à ma destinée. 2 mois après que ce cavalier fut parti, dans le temps de ma plus grande faveur, nous eûmes une chaude alarme au palais épiscopal. L'archevêque tomba en apoplexie. On le secourut si promptement et on lui donna de si bons remèdes que quelques jours après, il n'y paraissait plus. Mais son esprit en reçut une rude atteinte. Je le remarquai bien dès la première homélie qu'il composa. Je ne trouvais pas toutefois la différence qu'il y avait de celle-là aux autres, assez sensible pour conclure que l'orateur commençait à baisser. J'attendis encore une homélie pour mieux savoir à quoi m'en tenir. Oh, pour celle-là, elle fut décisive. Tantôt le bon prélat se rabattait, tantôt il s'élevait trop haut ou descendait trop bas. C'était un discours diffus, une rhétorique de régent usé, une capucinade. Je ne fus pas le seul qui y prit garde. La plupart des auditeurs, comme s'ils eussent été aussi gagés pour l'examiner, se disaient tout bas les uns aux autres « Voilà un sermon qui sent l'apoplexie. » « Allons, monsieur l'arbitre des homélies, me dis-je alors à moi-même, préparez-vous à faire votre office. Vous voyez que monseigneur tombe, vous devez l'en avertir, non seulement comme dépositaire de ses pensées, mais encore de peur que quelqu'un de ses amis ne soit assez franc pour vous prévenir. En ce cas-là, vous savez ce qu'il en arriverait, vous seriez biffé de son testament, où il y aura sans doute pour vous un meilleur legs que la bibliothèque du licencié Célio. » Après ces réflexions, j'en faisais d'autres toutes contraires. L'avertissement dont il s'agissait me paraissait délicat à donner. Je jugeais qu'un auteur entêté de ses ouvrages pourrait le recevoir mal. Mais, rejetant cette pensée, je me représentais qu'il était impossible qu'il le prît en mauvaise part, après l'avoir exigé de moi d'une manière si pressante. Ajoutons à cela que je comptais bien de lui parler avec adresse et de lui faire avaler la pilule tout doucement. Enfin, trouvant que je risquais davantage à garder le silence qu'à le rompre, je me déterminai à parler. Je n'étais plus embarrassé que d'une chose, je ne savais de quelle façon entamer la parole. Heureusement, l'orateur lui-même me tira de cet embarras en me demandant ce qu'on disait de lui dans le monde et si l'on était satisfait de son dernier discours. Je répondis qu'on admirait toujours ses homélies, mais qu'il me semblait que la dernière n'avait pas si bien que les autres affecté l'auditoire. « Comment donc, mon ami ? » répliqua-t-il avec étonnement. « Aurait-elle trouvé quelque Aristarque ?»«
Non, monseigneur, lui répartis-je, non, ce ne sont pas des ouvrages tels que les vôtres que l'on ose critiquer. Il n'y a personne qui n'en soit charmé. Néanmoins, puisque vous m'avez recommandé d'être franc et sincère, je prendrai la liberté de vous dire que votre dernier discours ne me paraît pas tout à fait de la force des précédents. Ne pensez-vous pas cela comme moi ? »
Ces paroles firent pâlir mon maître, qui me dit avec un sourire forcé, « Monsieur Gil Blas, cette pièce n'est donc pas de votre goût ?»«
Je ne dis pas cela, monseigneur, » interrompis-je tout déconcerté. « Je la trouve excellente, quoique un peu au-dessous de vos autres ouvrages. »«
Je vous entends, » répliqua-t-il. « Je vous parais baissé, n'est-ce pas ? Tranchez le mot. Vous croyez qu'il est temps que je songe à la retraite ?»«
Je n'aurais pas été assez hardi, lui dis-je, pour vous parler si librement, si votre grandeur ne me l'eût ordonné. Je ne fais donc que lui obéir, et je la supplie très humblement de ne me point savoir mauvais gré de ma hardiesse. »
« À Dieu ne plaise, » interrompit-il avec précipitation. « À Dieu ne plaise que je vous la reproche. Il faudrait que je fusse bien injuste. Je ne trouve point du tout mauvais que vous me disiez votre sentiment. C'est votre sentiment seul que je trouve mauvais. J'ai été furieusement la dupe de votre intelligence bornée. »
Quoique démonté, je voulus chercher une modification pour rajuster les choses. Mais le moyen d'apaiser un auteur irrité, et de plus un auteur accoutumé à s'entendre louer.
« N'en parlons plus, » dit-il. « Mon enfant, vous êtes encore trop jeune pour démêler le vrai du faux. Apprenez que je n'ai jamais composé de meilleure homélie que celle qui a le malheur de n'avoir pas votre approbation. Mon esprit, grâce au ciel, n'a rien encore perdu de sa vigueur. Désormais, je choisirai mieux mes confidents. J'en veux de plus capables que vous de décider. » « Allez, » poursuivit-il en me poussant par les épaules hors de son cabinet, « allez dire à mon trésorier qu'il vous compte 100 ducats et que le ciel vous conduise avec cette somme. Adieu, monsieur Gil Blas, je vous souhaite toutes sortes de prospérité avec un peu plus de goût. »
Chapitre 5. Du parti que prend Gil Blas après que l'archevêque lui eut donné son congé. Par quel hasard il rencontra le licencié qui lui avait tant d'obligations, et quelle marque de reconnaissance il en reçut. Je sortis du cabinet en maudissant le caprice, ou pour mieux dire, la faiblesse de l'archevêque, et plus en colère contre lui qu'affligé d'avoir perdu ses bonnes grâces. Je doutais même quelque temps si j'irais toucher mes 100 ducats, mais après y avoir bien réfléchi, je ne fus pas assez sot pour n'en rien faire. Je jugeais que cet argent ne m'ôterait pas le droit de donner un ridicule à mon prélat. À quoi je me promettais bien de ne pas manquer toutes les fois qu'on mettrait devant moi ces homélies sur le tapis. J'allais donc demander 100 ducats au trésorier, sans lui dire un seul mot de ce qui venait de se passer entre son maître et moi. Je cherchais ensuite Melchior de la Ronda pour lui dire un éternel adieu. Il m'aimait trop pour n'être pas sensible à mon malheur. Pendant que je lui en faisais le récit, je remarquai que sa douleur s'imprimait sur son visage. Malgré tout le respect qu'il devait à l'archevêque, il ne put s'empêcher de le blâmer. Mais, comme dans la colère où j'étais, je jurais que le prélat me le paierait et que je réjouirais toute la ville à ses dépens, le sage Melchior me dit « Croyez-moi, mon cher Gil Blas, dévorez plutôt votre chagrin. » Les hommes du commun doivent toujours respecter les personnes de qualité, quelque sujet qu'ils aient de s'en plaindre. Je conviens qu'il y a de forts plats seigneurs qui ne méritent guère qu'on ait de la considération pour eux, mais ils peuvent nuire, il faut les craindre. Je remerciai le vieux valet de chambre du bon conseil qu'il me donnait, et je lui promis d'en profiter. Après cela, il me dit « Si vous allez à Madrid, voyez-y Joseph Navarro, mon neveu,
Il est chef d'office chez le seigneur Don Balthazar de Zuniga, et j'ose vous dire que c'est un garçon digne de votre amitié. Il est franc, vif, officieux, prévenant. Je souhaite que vous fassiez connaissance ensemble. » Je lui répondis que je ne manquerais pas d'aller voir ce Joseph Navarro sitôt que je serais à Madrid, où je comptais bien de retourner. Ensuite, je sortis du palais épiscopal pour n'y remettre jamais le pied. Si j'eusse encore eu mon cheval, je serais peut-être parti sur le champ pour Tolède. Mais je l'avais vendu dans le temps de ma faveur, croyant que je n'en aurais plus besoin. Je pris le parti de louer une chambre garnie, faisant mon plan de demeurer encore un mois à Grenade et de me rendre après cela auprès du comte de Pollan. Comme l'heure du dîner approchait, je demandai à mon hôtesse s'il n'y avait pas quelque auberge dans le voisinage. Elle me répondit qu'il y en avait une excellente à deux pas de sa maison, que l'on y était bien servi et qu'il y allait quantité d'honnêtes gens. Je me la fis renseigner et je m'y rendis bientôt. J'entrai dans une grande salle qui ressemblait assez à un réfectoire. 10 à 12 hommes, assis à une longue table couverte d'une nappe malpropre, s'y entretenaient en mangeant chacun sa petite portion. L'on m'apporta la mienne, qui, dans un autre temps sans doute, m'aurait fait regretter la table que je venais de perdre. Mais j'étais alors si piqué contre l'archevêque que la frugalité de mon auberge me paraissait préférable à la bonne chère qu'on faisait chez lui. Je blâmais l'abondance des mets dans les repas, et, raisonnant en docteur de Valladolid, « Malheur, disais-je, à ceux qui fréquentent ces tables pernicieuses où il faut sans cesse être en garde contre sa sensualité, de peur de trop charger son estomac. Pour peu que l'on mange, ne mange-t-on pas toujours assez ?» Je louais dans ma mauvaise humeur des aphorismes que j'avais jusqu'alors fort négligés. Dans le temps que j'expédiais mon ordinaire, sans craindre de passer les bornes de la tempérance, le licencié Louis Garcia, devenu curé de Gaby, de la manière que je l'ai dit ci-devant, arriva dans la salle. Du moment qu'il m'aperçut, il vint me saluer d'un air empressé, ou plutôt en faisant toutes les démonstrations d'un homme qui sent une joie excessive. Il me serra entre ses bras, et je fus obligé d'essuyer un très long compliment sur le service que je lui avais rendu. Il me fatiguait à force de se montrer reconnaissant. Il se plaça très près de moi en me disant « Oh, vive Dieu, mon cher patron, puisque ma bonne fortune veut que je vous rencontre, nous ne nous séparerons pas sans boire. » Mais comme il n'y a pas de bon vin dans cette auberge, je vous mènerai, s'il vous plaît, après notre petit dîner, dans un endroit où je vous régalerai d'une bouteille de lucène des plus secs et d'un muscat de Foncarrat exquis. Il faut que nous fassions cette débauche. Ne me refusez pas, je vous prie, cette satisfaction. Que n'ai-je le bonheur de vous posséder quelques jours seulement dans mon presbytère de Gaby ? Vous y seriez comme un généreux mécène à qui je dois la vie aisée et tranquille que j'y mène. » Pendant qu'il me tenait ce discours, on lui apporta sa portion. Il se mit à manger, sans pourtant cesser de me dire par intervalle quelque chose de flatteur. Je saisis ce temps-là pour parler à mon tour, et comme il n'oublia pas de me demander des nouvelles de son ami le maître d'hôtel, je ne lui fis pas un mystère de ma sortie de l'archevêché. Je lui contai même jusqu'aux moindres circonstances de ma disgrâce, qu'il écouta fort attentivement. Après tout ce qu'il venait de me dire, qui ne se serait pas attendu à l'entendre, pénétré d'une douleur reconnaissante, déclamer contre l'archevêque? Mais c'est à quoi il ne pensait nullement. Au contraire, il devint froid et rêveur, acheva de dîner sans me dire une parole, puis, se levant de table brusquement, il me salua d'un air glacé et disparut. L'ingrat, ne me voyant plus en état de lui être utile, s'épargnait jusqu'à la peine de me cacher ses sentiments. Je ne fis que rire de son ingratitude, et le regardant avec tout le mépris qu'il méritait, je lui criai d'un ton assez haut pour en être entendu « Hola, oh, sage aumônier des religieuses, allez faire rafraîchir ce délicieux vin de Lucène dont vous m'avez fait fête !» Chapitre 6. Gil Blas va voir jouer les comédiens de Grenade, de l'étonnement où le jeta à la vue d'une actrice et de ce qu'il en arriva. Garcia n'était pas hors de la salle qu'il entra deux cavaliers fort proprement vêtus qui vinrent s'asseoir auprès de moi. Ils commencèrent à s'entretenir des comédiens de la troupe de Grenade et d'une comédie nouvelle qu'on jouait alors. Cette pièce, suivant leur discours, faisait grand bruit dans la ville. Il me prit envie de l'aller voir représentée dès ce jour-là. Je n'avais point été à la comédie depuis que j'étais à Grenade. Comme j'avais presque toujours demeuré à l'archevêché, où ce spectacle était frappé d'anathème, je n'avais eu garde de me donner ce plaisir-là. Les homélies avaient fait tout mon amusement. Je me rendis donc dans la salle des comédiens lorsqu'il en fut temps, et j'y trouvai une nombreuse assemblée. J'entendis faire autour de moi des dissertations sur la pièce avant qu'elle commençât, et je remarquai que tout le monde se mêlait d'en juger. L'un se déclarait pour, l'autre contre. « A-t-on jamais vu un ouvrage mieux écrit ? » disait-on à ma droite. « Le pitoyable style ! » s'écriait-on à ma gauche. « En vérité, s'il y a bien de mauvais auteurs, il faut convenir qu'il y a encore plus de mauvais critiques. Et quand je pense au dégoût que les poètes dramatiques ont à essuyer, je m'étonne qu'il y en ait d'assez hardis pour braver l'ignorance de la multitude et la censure dangereuse des demi-savants qui corrompent quelquefois le jugement du public. » Enfin, le Grazioso se présenta pour ouvrir la scène. Dès qu'il parut, il excita un battement de main général, ce qui me fit connaître que c'était un de ces acteurs gâtés à qui le parterre pardonne tout. Effectivement, ce comédien ne disait pas un mot, ne faisait pas un geste sans s'attirer des applaudissements. On lui marquait trop le plaisir qu'on prenait à le voir. Aussi en abusait-il. Je m'aperçus qu'il s'oubliait quelquefois sur la scène et mettait à une trop forte épreuve la prévention où l'on était en sa faveur. Si on l'eût sifflé au lieu de l'applaudir, on lui aurait souvent rendu justice. On battit aussi des mains à la vue de quelques autres acteurs, et particulièrement d'une actrice qui faisait un rôle de suivante. Je m'attachai à la considérer, et il n'y a point de terme qui puisse exprimer quelle fut ma surprise quand je reconnus en elle Laure, ma chère Laure, que je croyais encore à Madrid auprès d'Arsénie. Je ne pouvais douter que ce ne fût elle. Sa taille, ses traits, le son de sa voix, tout m'assurait que je ne me trompais point. Cependant, comme si je me fusse défié du rapport de mes yeux et de mes oreilles, je demandai son nom à un cavalier qui était à côté de moi. « Eh, de quel pays venez-vous ? » me dit-il. « Vous êtes apparemment un nouveau débarqué, puisque vous ne connaissez pas la belle Estelle. » La ressemblance était trop parfaite pour prendre le change. Je compris bien que Laure, en changeant d'état, avait aussi changé de nom. Et curieux de savoir ses affaires, car le public n'ignore guère celles des personnes de théâtre, je m'informai du même homme si cette Estelle avait quelque amant d'importance. Il me répondit que depuis 2 mois il y avait à Grenade un grand seigneur portugais nommé le marquis de Marialva qui faisait beaucoup de dépenses pour elle. Il m'en aurait dit davantage si je n'eusse pas craint de le fatiguer de mes questions. J'étais plus occupé de la nouvelle que ce cavalier venait de m'apprendre que de la comédie, et qui m'eût demandé le sujet de la pièce quand je sortis m'aurait fort embarrassé. Je ne faisais que rêver alors à Estelle, et je me promettais bien d'aller chez cette actrice le jour suivant. Je n'étais pas sans inquiétude sur la réception qu'elle me ferait. J'avais lieu de penser que ma vue ne lui ferait pas grand plaisir dans la situation brillante où étaient ses affaires. Je jugeais même qu'une si bonne comédienne, pour se venger d'un homme dont certainement elle avait sujet d'être mécontente, pourrait bien faire semblant de ne le pas connaître. Tout cela ne me rebuta point. Après un léger repas, car on n'en faisait pas d'autre dans mon auberge, je me retirai dans ma chambre, très impatient d'être au lendemain. Je dormis peu cette nuit, et je me levai à la pointe du jour. Mais comme il me sembla que la maîtresse d'un grand seigneur ne devait pas être visible de si bon matin, avant que d'aller chez elle, je passais 3 ou 4 heures à me parer, à me faire raser, poudrer et parfumer. Je voulais me présenter devant elle dans un état qui ne lui donna pas lieu de rougir en me revoyant. Je sortis sur les 10 heures et me rendis chez elle après avoir été demander sa demeure à l'hôtel des comédiens. Elle logeait dans une grande maison où elle occupait le premier appartement. Je dis à une femme de chambre qui vint m'ouvrir la porte qu'un jeune homme souhaitait de parler à la dame Estelle. La femme de chambre entra pour m'annoncer et j'entendis aussitôt sa maîtresse qui lui dit d'un ton de voix fort élevé « Qui est ce jeune homme? Que me veut-il? Qu'on le fasse entrer !» Je jugeai par là que j'avais mal pris mon temps et que son amant portugais était à sa toilette, et qu'elle ne parlait si haut que pour lui persuader qu'elle n'était pas fille à recevoir des messages suspects. Ce que je pensais était véritable. Le marquis de Marialva passait avec elle presque toutes les matinées. Ainsi, je m'attendais à un mauvais compliment, lorsque cette originale actrice, me voyant paraître, accourut à moi les bras ouverts en s'écriant, comme par enthousiasme, « Ah, mon frère, est-ce vous que je vois ?» À ces mots, elle m'embrassa à plusieurs reprises, puis se tournant vers le portugais, « Seigneur, lui dit-elle, pardonnez si en votre présence je cède à la force du sang. Après 3 ans d'absence, je ne puis revoir un frère que j'aime tendrement sans lui donner des marques de mon amitié. « Eh bien, mon cher Gil Blas, continua-t-elle en m'apostrophant de nouveau, « dites-moi des nouvelles de la famille. Dans quel état l'avez-vous laissé ?» Ce discours m'embarrassa d'abord, mais j'y démêlai bientôt les intentions de Laure. Et secondant son artifice, je lui répondis d'un air accommodé à la scène que nous allions jouer tous deux. « Grâce au ciel, ma sœur, nos parents sont en bonne santé. » « Je ne doute pas, reprit-elle, que vous ne soyez étonnée de me voir comédienne à Grenade, mais ne me condamnez pas sans m'entendre. Il y a 3 années, comme vous savez, que mon père crut m'établir avantageusement en me donnant au capitaine Don Antonio Coelho, qui m'amena des Asturies à Madrid où il avait pris naissance. 6 mois après que nous y fûmes arrivés, il eut une affaire d'honneur qu'il s'attira par son humeur violente. » Il tua un cavalier qui s'était avisé de faire quelque attention à moi. Le cavalier appartenait à des personnes de qualité qui avaient beaucoup de crédit. Mon mari, qui n'en avait guère, se sauva en Catalogne avec tout ce qui se trouva au logis de pierreries et d'argent comptant. Il s'embarque à Barcelone, passe en Italie, se met au service des Vénitiens et perd enfin la vie dans la Morée en combattant contre les Turcs. Pendant ce temps-là, une terre que nous avions pour tout bien fut confisquée, et je devins une douairière des plus minces. À quoi me résoudre dans une si fâcheuse extrémité? Une jeune veuve qui a de l'honneur se trouve bien embarrassée. Il n'y avait pas moyen de m'en retourner dans les Asturies. Qu'y aurais-je fait? Je n'aurais reçu de ma famille que des condoléances pour toute consolation. D'un autre côté, j'avais été trop bien élevée pour être capable de me laisser tomber dans le libertinage. À quoi donc me déterminer? Je me suis faite comédienne pour conserver ma réputation. » Il me prit une si forte envie de rire lorsque j'entendis Laure finir ainsi son roman, que je n'eus pas peu de peine à m'en empêcher. J'en vins pourtant à bout, et même je lui dis d'un air grave « Ma sœur, j'approuve votre conduite, et je suis bien aise de vous retrouver à Grenade, si honnêtement établie. » Le marquis de Marialva, qui n'avait pas perdu un mot de tous ses discours, prit au pied de la lettre ce qu'il plut à la veuve de Don Antonio de débiter. Il se mêla même à l'entretien. Il me demanda si j'avais quelque emploi à Grenade ou ailleurs. Je doutais un moment si je mentirais, mais ne jugeant pas cela nécessaire, je dis la vérité. Je comptai de point en point comment j'étais entrée à l'archevêché et de quelle façon j'en étais sortie, ce qui divertit infiniment le seigneur portugais. Il est vrai que, malgré la promesse faite à Melchior, je m'égayai un peu aux dépens de l'archevêque. Ce qu'il y a de plaisant, c'est que l'or, qui s'imaginait que je composais une fable à son exemple, faisait des éclats de rire qu'elle n'aurait pas fait si elle eût su que je ne mentais point. Après avoir achevé mon récit, que je finis par la chambre que j'avais louée, on vint avertir qu'on avait servi. Je voulus aussitôt me retirer pour aller dîner à mon auberge. Mais l'or m'arrêta. « Quel est votre dessein, mon frère ?» me dit-elle. « Vous dînerez avec moi. Je ne souffrirai pas même que vous soyez plus longtemps dans une chambre garnie. Je prétends que vous mangiez dans ma maison et que vous y logiez. Faites apporter vos hardes ce soir. Il y a ici un lit pour vous. » Le seigneur portugais, à qui peut-être cette hospitalité ne faisait pas plaisir, prit alors la parole et dit alors « Non, Estelle, vous n'êtes pas logée ici assez commodément pour recevoir quelqu'un chez vous. « Votre frère, ajouta-t-il, me paraît un joli garçon, et l'avantage qu'il a de vous toucher de si près m'intéresse pour lui. Je veux le prendre à mon service. Ce sera celui de mes secrétaires que je chérirai le plus. J'en ferai mon homme de confiance. Qu'il ne manque pas de venir dès cette nuit coucher chez moi. J'ordonnerai qu'on lui prépare un logement. Je lui donne 400 ducats d'appointement. Et si dans la suite j'ai sujet, comme je l'espère, d'être content de lui, je le mettrai en état de se consoler d'avoir été trop sincère avec son archevêque. » Les remerciements que je fis là-dessus au marquis furent suivis de ceux de l'or, qui en chérirent sur les miens. « Ne parlons plus de cela, interrompit-il, c'est une affaire finie. » En achevant ces paroles, il salua sa princesse de théâtre et sortit. Elle me fit aussitôt passer dans un cabinet, où, se voyant seule avec moi, « J'étoufferais !» s'écria-t-elle, « si je résistais plus longtemps à l'envie que j'ai de rire. » Alors elle se renversa dans un fauteuil, et se tenant les côtés, elle s'abandonna comme une folle à des rires immodérés. Il me fut impossible de ne pas suivre son exemple, et quand nous nous en fûmes bien donnés, « À vous, Gil Blas, me dit-elle, que nous venons de jouer une plaisante comédie. Mais je ne m'attendais pas au dénouement. J'avais dessein seulement de te ménager une table et un logement. Et pour te les offrir avec bienséance, je t'ai fait passer pour mon frère. Je suis ravie que le sort t'ait présenté un si bon poste. Le marquis de Marialva est un seigneur généreux qui fera plus encore pour toi qu'il n'a promis de faire. Un autre que moi, poursuivit-elle, n'aurait peut-être pas reçu si gracieusement un homme qui quitte ses amis sans leur dire adieu. Mais je suis de ces bonnes pattes de filles qui revoient toujours avec plaisir un fripon qu'elles ont aimé. » Je demeurai d'accord de bonne foi de mon impolitesse et je lui en demandai pardon. Après quoi, elle me conduisit dans une salle à manger très propre. Nous nous mîmes à table et comme nous avions pour témoin une femme de chambre et un laquais, nous nous traitâmes de frères et de sœurs. Lorsque nous eûmes dîné, nous repassâmes dans le même cabinet où nous nous étions entretenus. Là, mon incomparable Laure, se livrant à toute sa gaieté naturelle, me demanda compte de tout ce qui m'était arrivé depuis notre séparation. Je lui en fis un fidèle rapport, et quand j'eus satisfait sa curiosité, elle contenta la mienne, en me faisant le récit de son histoire dans ces termes. Thank you.